Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un texte majeur, fondateur du féminisme noir, mais qui, depuis sa publication en 1978, était devenu introuvable. Cet ouvrage, signé Dawa Thiam, anthropologue, femme politique et écrivaine sénégalaise, et intitulé « La parole aux négresses », est donc à nouveau disponible grâce aux éditions Divergence, où il vient de reparaître avec une préface de notre invitée aujourd'hui, Mam Fatou Niang. Bonjour.
Bonjour et merci de me recevoir.
Vous êtes universitaire, professeure, maîtresse de conférences aux États-Unis, mais également artiste et documentariste. Et vous nous dites ici l'urgence de lire et de connaître l'autrice et son travail, d'autant plus que vous-même, vous l'avez découvert un peu par hasard pendant vos études américaines en 2006. Est-ce que ça a été une surprise pour vous, voire une révélation, Mam Fatou Niang ?
Presque 20 ans plus tard, je cherche encore les mots, surprise, révélation. En fait, Dawa Thiam, je la découvre en même temps que Maryse Condé, en même temps que Frantz Fanon, en même temps que Glissant. Donc c'est tout un pan d'histoire de France, de littérature en français, de littérature francophone que j'apprends aux États-Unis et de la bouche de ma camarade de chambre qui était une étudiante américaine qui venait de Géorgie.
Ça veut dire que vous découvrez ce texte aux États-Unis, qu'il a donc été oublié, mis de côté en France ? Et en langue française ?
C'est un texte qui est publié en 1978, qui va être réédité deux fois et qui disparaît. Et donc dans la préface, je commence la préface en disant qu'il y avait une petite blague comme ça, une boutade qui circulait pendant mes années de doctorat, que s'il existait un Goncourt du PDF le plus distribué, le livre Dawa Thiam l'aurait. Donc c'était un livre qui était lu, qui était un classique, mais qu'on ne trouvait plus. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant dans cette tension, cet écart entre ce livre qui était une légende auprès de milieux militants, auprès d'universitaires, mais qui était devenu introuvable et qui n'était plus édité.
Avant d'entrer dans le vif du sujet de cet ouvrage, est-ce que vous voulez bien tout d'abord nous rappeler qui est Dawa Thiam ?
Alors Dawa Thiam, comme elle se définit elle-même, est une Sénégalaise, une Africaine. Elle arrive à Paris pour faire des études de sociologie. Elle va être extrêmement active ici. Elle est l'une des cofondatrices de la coordination des femmes noires. Elle écrit cet ouvrage donc, qui s'appelle « La parole aux négresses », donc avec un titre provocateur, mais ça, c'est voilà. On pourra aussi peut-être avoir, si le temps nous le permet, un débat sur cet adjectif qui est très souvent accolé soit à sa personnalité, à son style d'écriture, à l'ouvrage provocateur. Est-ce qu'elle était vraiment provocateur ? En quoi est-ce que l'ouvrage l'était ? Et qui va écrire donc ce livre préfacé à l'époque par Benoît de Groot, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis elle disparaît. Elle disparaît. Et là, on est en 2024. Le livre est réédité en France, dans l'espace francophone, par les éditions Divergence, avec une coédition d'Abigail, qui est absolument une jeune fille absolument formidable, curatrice, qui va approcher plusieurs maisons d'édition, dont Divergence. Et je la remercie infiniment. Et l'ouvrage est aussi édité au Sénégal et pour l'Afrique francophone par les éditions Saraba. Et ça, je tenais à l'ajouter avec une préface de l'excellente Ndeye Fatou Kane. Et donc, en 2024, où est Dawa Thiam ? Qu'est-ce qui se passe au moment où ces écrits font surface, refont surface, au moment où ces écrits donc, s'installent dans cette circulation donc, de savoir qu'on découvre, qu'on redécouvre, toutes les conversations autour de MeToo, autour du féminisme, des féminismes, la résurgence des études autour des féminismes noirs, des féminismes afro-américains, africains. Donc aujourd'hui, qu'il y a vraiment, aussi bien dans les milieux universitaires que militants, que dans les débats publics, tous ces débats fort intéressants, quelquefois tendus, autour de la place des femmes et des croisements entre les questions sociales, raciales, l'intersectionnalité. Où est Dawa Thiam ? Voilà.
Et alors, quelle est la réponse à cette question ?
J'espère qu'on aura l'occasion d'entendre la réponse de la bouche de l'intéressée. Je ne voudrais pas m'avancer et parler pour elle. Nous avons besoin de l'entendre. Alors, moi, je me satisfais depuis une vingtaine d'années maintenant du compagnonnage de ce livre, du compagnonnage avec ce vieux PDF raturé de partout, qui était le symbole des lectures extrêmement vivantes, mais des tensions aussi que j'avais dans ma manière d'approcher ce livre, qui n'est pas une lecture facile. Maintenant, nous avons le livre. J'espère que ce compagnonnage pourra prendre d'autres formes avec la voix d'Awa Cham. J'espère qu'elle va vouloir accompagner ses sorties, mais il ne faudrait pas qu'on la force. Elle vit depuis une vingtaine d'années dans une... Elle s'est retirée de la vie publique, plus ou moins, pour des raisons qui sont les siennes, mais que nous pouvons deviner. J'espère qu'elle trouvera, qu'il y a une sérénité qui lui permette de revenir. Une sérénité et une sécurité aussi, parce que c'est une vraie question. Une sérénité et une sécurité qui lui permettent de revenir profiter de ce moment avec nous.
Donc en 1978, Awa Cham publie « La parole aux négresses » et je vous propose d'écouter ce qu'elle disait de ce texte sur l'antenne de RFI dans une émission présentée par Maryse Condé. Extrait de cette archive.
L'essentiel est que mes sœurs noires arrivent à comprendre mon message et à partir de là, en arrivent à se poser des questions et peut-être à remettre en question le rôle oppressif des hommes. On voit très bien que les femmes sont dominées en fait à tous les niveaux. Au niveau du couple, elle est aussi dominée. Je dois dire que les femmes n'existent pas. En tant qu'êtres humains, elles sont niées dans leur corps, tout comme dans leur psychisme.
Voilà, Awa Cham en 1978, dans cet extrait où elle parle de la parole aux négresses. Alors d'ailleurs, Mam Fatou Niang, à quoi le terme négresse fait-il référence? Est-ce que c'est à toutes les femmes noires du continent, à toutes les femmes noires du monde entier, voire à toutes les femmes tout court?
Quand elle l'écrit, pour elle, c'est extrêmement clair. Elle est ancrée dans une approche extrêmement locale. Elle parle aux femmes africaines noires.
Pourquoi négresse ?
C'est pour parler de la condition. Moi, alors, ce n'est plus un terme que j'utilise, mais c'est un terme qui interroge. C'est un terme qui nous force aussi à lire ce texte dans le contexte de son écriture. 1978, on est une vingtaine d'années après les indépendances africaines, on est déjà le soleil des indépendances de Kuruma ne brille plus, on est vraiment dans cette désillusion de deux décennies post-indépendance où on sait que tous les espoirs ou les espoirs qu'on a pu avoir de libération ne sont pas au rendez-vous, de libération non seulement pour les peuples, pour les hommes noirs, mais aussi pour les femmes noires. Et c'est ce qu'elle dit vraiment, 20 ans après les indépendances, on n'est pas plus avancé qu'on était sous la férule de la France. Donc, en fait, notre exploitation, le système d'exploitation qui nous enferme n'était pas seulement du fait de la colonisation, mais maintenant, nous sommes dirigés par des hommes noirs et les choses ne se sont pas arrangées. Dans certains cas même, elle le dit, ça s'est aggravé. Donc, lire ça dans le contexte de la fin des années 70, qu'est-ce que c'est que d'être une femme noire? Et au lieu d'utiliser le mot de femme, noire, africaine, elle avait le choix entre plusieurs vocabulaires, elle a préféré le mot de négresse, et je pense qu'il y avait vraiment quelque chose d'une condition très brute, quelque chose de très terrien, de très matériel, qui est remué par ce mot négresse. Je le vois même là dans les présentations qu'on a, que le titre n'est pas facile à prononcer pour les personnes qui viennent acheter le livre, pour les personnes qui présentent le livre. Et je trouve ça très très bien, parce que ça nous force à nous arrêter, ça nous force à confronter aussi les difficultés, les silences, les évitements qu'on a à prononcer certains mots. Moi, je trouve ça très bien. J'ai fait un documentaire qui s'appelait Marianne Noire il y a 10 ans, où certaines personnes me disaient, mais on ne peut pas faire cohabiter Marianne, qui est le symbole d'une république aveugle à la couleur, Marianne n'a pas de couleur, avec l'adjectif colorisant noir. Et en fait, c'était un moment où on ne prononçait pas beaucoup de noir dans l'espace public, on préférait dire black, et moi je dis non, je ne suis pas black, je suis black aux États-Unis, je suis noire, et être noire en France, il y a une histoire, et on sait qu'en France, on doit ancrer les choses dans la langue française. Donc j'aimais beaucoup forcer les gens à dire les mots qu'ils ne veulent pas prononcer. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cet exercice.
Donc avec la parole aux négresses, Awatiam pose les bases d'une pensée afro-féministe novatrice, mm-hmm. puisqu'elle s'appuie précisément sur la parole mm-hmm. des femmes qu'elle a rencontrées mm-hmm. dans plusieurs pays, le Mali, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, contrées francophones, mais aussi Ghana et Nigeria, qui sont anglophones. Est-ce que c'était inédit à l'époque de retranscrire des témoignages directs ?
Inédit, je ne sais pas, parce qu'il y a encore tellement d'archives à trouver. Je serais étonnée qu'elle soit la seule à l'avoir fait, et c'est ce que je le disais encore ce matin à mes étudiants. Mettez-vous en chasse des archives, on va en trouver d'autres. Parce qu'on peut voir ce relevé de témoignages comme quelque chose de très simple, quelque chose de naïf, et en fait ça ne l'est pas, parce que le livre est divisé en plusieurs parties. Il y a une première partie où on a une suite de témoignages, et Awatiam l'explique en introduction du livre. Elle fait le choix de ne pas les analyser tout de suite. Elle veut vraiment laisser cette parole couler telle qu'elle la recueille, et puis en deuxième partie d'ouvrage, comme une universitaire, elle va les analyser avec des sources, les croiser avec des sources, les croiser avec des chiffres, etc. Mais dans cette première partie, ce que je trouve extraordinaire, c'est que revenons toujours au contexte de l'époque, revenons au contexte social, au contexte ethnique, au contexte religieux, et on sait ce que c'est, et très souvent dans les témoignages, les femmes et certains des hommes qui parlent le répètent, ils sont conscients qu'ils dépassent du tabou, de ce qu'ils sont en train de faire, en prenant la parole, en prononçant certains mots. Donc, inédit, oui, parce que ces personnes-là savent le poids des interdits qu'ils sont en train d'enfreindre en disant « je » dans des sociétés où c'est le « nous »,
en mettant des mots sur des situations...
Absolument, infibulation, excision... En questionnant l'ancrage, en questionnant la véracité de certaines traditions, en les questionnant, il faut le faire. Donc oui, il y a quelque chose d'inédit, et je vais terminer là, et dans la manière dont elle va aussi encadrer ces témoignages-là, on sent quand même le travail universitaire. Donc elle va faire des recherches, elle va croiser les sources en parlant à des imams, à des chefs coutumiers, en parlant à des hommes politiques. Et puis, on voit qu'elle est au courant des conversations qui se tiennent à l'échelle mondiale autour de ces questions-là. Elle cite des féministes d'Amérique du Sud, des États-Unis, françaises, européennes. Et c'est ce que moi je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il y a cette cartographie mondiale des circulations de la question féminine, de la place des femmes dans le monde. Et à l'intérieur de ces circulations, elle veut mettre un point qui va placer donc la question afro-féministe, la question féministe noire africaine en Afrique, et la mettre constamment en dialogue avec ce qui se fait dans le reste du monde. Et en cela, pour moi, son travail est inédit et il est pionnier.
Nous allons continuer de parler dans un instant de la parole aux négresses d'Awatiam et de ses problèmes spécifiques rencontrés par les femmes africaines et des conclusions de son étude qui appelle à une lutte et à une libération nécessaire et impérative avec vous, Mam Fatou Niang, qui préfacez cet ouvrage paru aux éditions Divergence, juste après cette pause musicale.
Ça, c'est
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec une émission spéciale consacrée à la réédition du grand texte afroféministe « La parole aux négresses » d'Awa Thiam, publié en 1978 et qui vient tout juste de reparaître chez Divergence avec une préface de notre invitée Mam Fatou Niang. On l'a dit, un ouvrage majeur qui pose les bases des mots M-A-U-X des femmes noires en Afrique à partir du témoignage de plusieurs d'entre elles qui racontent le mariage forcé, la déscolarisation, le viol, le concubinage imposé, l'exploitation domestique, la marchandisation, la pression familiale et sociale, et je ne parle pas encore des mutilations corporelles et sexuelles. En bref, des femmes qui n'ont le choix qu'entre la résignation ou le divorce, et encore, toutes n'osent pas faire cette démarche. C'est donc un constat général, un tableau qui montre, et c'est là aussi la nouveauté peut-être du travail d'Awa Thiam, une triple oppression du genre, de race et de classe. Est-ce que vous voulez bien nous détailler ça, Mam Fatou Niang ?
En étant femme, on vit sous tel régime. Ce régime est croisé lorsqu'on est femme et noire, et femme et noire et pauvre, et femme et noire et colonisée. Donc la colonisation et à la fin de la colonisation, la colonialité, parce que la fin de la colonisation ne met pas fin au régime de colonialité, nous apporte un autre régime de vie. Et ce n'est pas vouloir se disperser que d'étudier l'imbrication de ces systèmes, mais c'est essayer d'avoir une vision plus complète de notre place dans la société. Donc, on a toujours fait de l'intersectionnalité en France, c'est juste que ça ne s'appelait pas de l'intersectionnalité. Et au même moment, on a les mêmes situations en Afrique, au 19e siècle, au 20e siècle. Je pense à Annette Mbey d'Erneville, je pense à Awa Keïta. Il y a toute une génération de jeunes femmes dans l'AOF, l'Afrique occidentale française, qui disent ben « c'est super, il y a toutes ces organisations féministes au début des années 20, mais qui sont des associations où la question de la femme est de facto la question de la place de la femme blanche. La femme n'est pas considérée comme pouvant être noire. » Et de plus, dans les sociétés colonisées, que l'on soit à Dakar, à Abidjan, en Guadeloupe ou en Martinique, la femme colonisée ne vit pas sous le même régime social, sociologique que la femme blanche. Donc nous avons besoin de mots, M-O-T-S, pour parler du croisement spécifique que nous occupons dans la société.
En tout cas, elle dessine le contour d'une situation qui a un lien, on l'a dit, donc avec une couleur de peau, un genre sexuel et une classe sociale.
Absolument.
Mais elle documente aussi sa pensée avec ses témoignages sur quelque chose qui est peut-être aussi spécifique, les mutilations sexuelles,
absolument,
l'excision du clitoris, l'infibulation du vagin, qui sont d'autant plus tragiques qu'elles se font au nom de la tradition ou de la religion et des pratiques condamnent fermement Awa Thiam. Qu'on va entendre ici, toujours dans cet extrait de cette émission où elle répond aux questions de Maryse Condé sur RFI en 1978.
Et je m'étonne d'entendre certaines femmes ou certains hommes dire que bon, l'excision et l'infibulation ne sont pas des pratiques mutilatoires, que ce sont des pratiques qui n'empêchent pas la jouissance, que ce sont des pratiques qu'on peut maintenir encore. Je m'étonne, je l'avoue, je m'étonne réellement que des femmes encore et des hommes en soient à ce stade-là. Et cet été, j'ai été encore à Bamako. J'ai pu constater qu'à l'hôpital Gabriel Touré, l'excision se pratiquait encore. Et que les femmes, dans les quartiers populaires, avaient toujours recours à l'exciseuse traditionnelle. Ça se passe dans de très mauvaises conditions. J'ai essayé de retracer l'historique de l'excision au niveau de la religion. On a beaucoup prêté à l'islam, en fait. On a souvent parlé de Dieu en parlant des pratiques de l'excision et de l'infibulation, alors que Dieu n'a rien à faire au niveau de ces pratiques, absolument. Alors, que faire maintenant ? J'ai bien donné des informations précises en me référant au Coran. J'ai fait des enquêtes sur ces pratiques-là. Et je me dis tout simplement que tout ce que l'on dit en ce moment en se référant à Dieu et à l'islam n'est en fait qu'une sorte de caution pour pérenniser ces pratiques mutilatoires.
Voilà, Awa Thiam, en 1978, à l'occasion d'une émission où elle parle de ce livre « La parole aux négresses ». Et ce qu'on entend, et ce qui est terrible, c'est que cette tradition des mutilations sexuelles est aussi portée par les femmes, les mères, les aînées, on l'entend dans cet extrait, les exciseuses professionnelles. Mais alors, comment mettre fin à cette transmission de souffrance s'il y a aussi un conservatisme des femmes,
Mme Patoudiang? Je le disais, on lui aura demandé d'être un peu plus stratégique dans ses choix, de ne pas se faire trop d'ennemis à la fois. Et elle dit non, je n'ai pas le temps. Si mes ennemis, ce sont les hommes, hein, ce sont les hommes. Si des hommes noirs sont contre le but que j'ai, qui est une libération et l'intégrité de la femme. Et quand je parle, je vais revenir dessus, quand je parle de l'intégrité, c'est l'intégrité du corps. Donc l'intégrité du corps avec toutes ses parties, clitoris, lèvres, etc. Cette question de l'intégrité est extrêmement importante. Et si dans ce camp qui n'a pas le même but, les mêmes visées que nous, il y a d'autres femmes noires, ben je les considère comme des personnes qui ne font pas partie de mon camp. Et elle est vraiment très très claire dessus. Elle le dit, moi je suis contre l'idée d'unité, je suis contre l'idée de communauté. Alors ça apporte, et c'est ce que je trouve tellement actuel, tellement contemporain dans ce livre, parce qu'il nous permet, nous, dans les années 2024, et j'espère dans le futur, d'avoir beaucoup de quoi alimenter des conversations très contemporaines qu'on a sur l'idée de communauté, l'idée d'unité. Elle le dit, moi, je ne peux pas faire communauté avec des gens qui sont contre mon intégrité. J'ai vraiment un but qui est la libération des femmes. Et à partir de là, je ne peux pas m'associer avec des personnes qui n'ont pas, comme moi, cette vision, qui est, elle le dit, c'est vraiment ma ligne rouge. Et que sa priorité, ce n'est ni l'unité, ni des alliances stratégiques, mais la libération. Et la libération d'un corps, je le répète encore, entier. Et à partir de là, elle centre la femme noire, qui doit être la seule à pouvoir dire « je » et à pouvoir s'exposer et exposer ses perspectives, ses points de vue. Donc de ce point de vue, elle est déjà extrêmement moderne. En 1978, et elle joue avec des sujets qui, à l'époque, étaient compliqués, qui le sont encore aujourd'hui, mais en fait, elle dit non, ce n'est pas si compliqué, c'est simple. Laissons ces femmes jouir de leur corps, laissons ces femmes évoluer dans la vie de la même manière qu'elles y sont entrées. Elles ne sont pas nées avec ces morceaux de peau en moins, pourquoi les enlever? Et surtout, elle fait une véritable enquête, c'est une universitaire, qui montre que les fondations de certaines de ces questions ne sont pas très très claires, contexte ou pas contexte. Et de toute façon, enquête universitaire ou pas, donnons la parole aux négresses et demandons-leur ce qu'elles pensent de ces pratiques, demandons-leur ce qu'elles pensent de l'infibulation, ce qu'elles pensent de l'excision, ce qu'elles pensent du blanchiment de peau, ce qu'elles pensent de la polygamie, ce qu'elles pensent du mariage. Et peut-être si elles disent toutes qu'elles sont d'accord, alors on peut aller se coucher et dire « amusez-vous bien, ça vous fait plaisir ». C'est ce qu'elle dit. Elle dit « je ne donne pas de leçons, je vous demande juste donner la parole aux femmes et demandez-leur ce qu'elles pensent de ces choses. Et puis après, on verra.
» Elle prône en effet le droit à la parole, la lutte, la révolte, pour ne pas dire la révolution. La révolution. Mais concrètement, ça passe par quel type d'action?
C'est quelque chose d'assez interactif. Elle s'adresse au lecteur en disant, voilà, moi je te propose ça, je ne sais pas ce que tu vas en faire, mais voici ce que je pense. Mais au milieu de toute cette circulation, il y a une chose qu'elle dit, il faut lutter. Alors là, elle le dit, c'est mon opinion. Je ne sais pas ce que tu comprends de ce que ces autres femmes sénégalaises, guinéennes, ghanéennes, maliennes, etc. ont dit. Je ne sais pas ce que tu penses de ce que ces chercheurs suédoises, françaises, américaines en ont compris. Je ne sais pas ce que tu penses de ce que ces théoriciennes malgaches, mahoraises, brésiliennes ont dit. Mais moi, je suis arrivée à la conclusion qu'on a un problème. Je suis arrivée à la conclusion que nous sommes exploités. Il y en a marre. Et elle termine en disant, je vais vous laisser avec ça. Lutter, c'est se battre avec résolution et foi dans une victoire certaine, comme la promesse d'un bonheur prochain et sûr que l'on vivra ou que d'autres vivront. Donc lutter avec la ferme conviction qu'il y aura un aboutissement positif, en notre présence ou en notre absence. Lutter. Et elle laisse le lecteur décider, ou la lectrice.
Et ma toute dernière question, Mme Patoudiang, qu'est-ce qui a changé depuis la publication de ce livre? Qu'est-ce qui a changé depuis 1978?
Waouh! tellement de choses arrivent. On a parlé de MeToo, on a parlé du développement des études féministes, on a parlé du militantisme. Moi, je suis entre le monde de l'art, le monde universitaire, le monde des associations. Plein de choses bougent. On a, voilà, moi, je parlais des MeToo tout à l'heure.
Il y a un MeToo qui se développe
Si, il y a des MeToo en Afrique. Balance ton Sai Sai, Stop Bird Bar, Nopi Woman. Non, il y a toutes ces choses qui se développent dans les Afriques, dans les diasporas, en ligne, dans les amphithéâtres. Et on a l'impression qu'il y a un foisonnement, qu'il y a une libération. Et en même temps, et je pense que en fait, ce n'est pas juste par rapport au féminisme ou à ces questions-là. On le voit, c'est la marche du monde. On a l'impression qu'on fait 20 pas en avant et tout d'un coup 1000 pas en arrière. Des fois, c'est très difficile. Moi, je le dis vraiment, c'est mon opinion. Des fois, c'est très difficile de savoir où on en est au milieu de toutes ces circulations, toutes ces nouvelles choses qui arrivent. Et ce que je trouve intéressant avec ce livre, c'est qu'il nous oblige, parce qu'il bouge le curseur. Alors là, on était dans les années 2000, il bouge le curseur en 1978. Il nous ouvre à de nouvelles manières de dire. Et il y a beaucoup de mots qu'elle emploie dans les langues locales. Donc pour nous, moi je le vois en tant que chercheur, c'est d'autres manières de dire dans ces systèmes de pensée, Wolof, Sarah Houlet, etc. En bougeant le curseur, ça ouvre, c'est comme si ça étendait le papier. On a plus de surface pour écrire, on a plus de surface pour ouvrir de nouveaux ponts, établir de nouvelles relations, de nouvelles lignes entre des systèmes de pensée qu'on pensait déconnectés. On découvre de nouveaux lieux de pensée, on découvre de nouveaux noms. Moi, je trouve que c'est absolument intéressant et c'est ça qui est extraordinaire dans ce livre. C'est une bibliographie extraordinaire. Elle propose des noms de chercheurs. Je me demande toujours combien de thèses ont été écrites à partir de noms, d'anecdotes qui sont dans ce livre. Donc, qu'est-ce qui a changé beaucoup et en même temps si peu de choses? Est-on plus libre? On est peut-être libre, mais voilà, la conversation continue. Et je pense que c'est ce qu'elle nous... Lorsqu'elle termine le livre comme ça, lutter, c'est oui, il y a des choses qui ont bougé, mais peut-être pas tout. Et comme on dit au Sénégal, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc avoir des systèmes de pensée du passé, savoir ce qui a été pensé par des mères, des tantes comme Awa Cham, ça nous nourrit et ça nous permet... C'est une boussole pour le futur, voilà.
Merci beaucoup, on va rester sur ce très beau mot boussole. En effet, merci Mam Fatou Niang d'être venue nous parler si longuement de ce texte majeur, La parole aux négresses, un texte d'Awa Cham donc, qui est réédité grâce aux éditions Divergence et où vous signez la préface.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.